Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place au débat d'Europe Soir. Maintenant, je suis avec Fabienne Keller, eurodéputée Agir, soutien de la majorité présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également avec nous, Jonas Haddad, conseiller régional Les Républicains de la région Normandie. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
La Corse subit donc un nouveau phénomène climatique de grande intensité, à la différence des gigafeux qu'on a observés ces dernières semaines, en Gironde notamment, mais pas seulement. Il y a des morts cette fois. Il va falloir s'y habituer, Fabienne Keller, à ces phénomènes climatiques extrêmes et meurtriers.
Il y a deux choses. Il y a le phénomène climatique, visiblement lié au changement climatique. Donc on aura plus d'accidents, d'inondations, de températures élevées, mais aussi de précipitations très très violentes. Par contre, il y a toute la question de l'adaptation, de l'anticipation, de la prudence renforcée pour éviter évidemment les morts et les blessés. 5 morts déjà en Corse, c'est terrifiant, avec des problèmes terrestres. Et j'ai compris qu'il y avait des questions de sauvetage en mer, donc une prudence pour les sorties, soit des pêcheurs, soit pour s'amuser, enfin pour faire du sport. Donc peut-être une nouvelle attitude à développer chez les acteurs publics, mais aussi chez chacun, mais aussi dans toutes les institutions.
Jonas Haddad.
Oui, je partage complètement ce qu'il vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une politique en la matière qui soit sans aucune idéologie, c'est-à-dire que ceux qui continuent à contester l'existence de dérèglements climatiques doivent bien se rendre compte qu'il faut qu'on adapte nos politiques publiques. Mais d'un autre côté, attention, je pense notamment à ce qui s'est passé à la teste de bûche à l'occasion vous voyez, des incendies, mais aussi dans d'autres endroits. Pas d'idéologie dans le sens inverse. Vous savez, dans certains endroits, c'est parce que certains élus verts avaient décidé de remettre en cause les plans de gestion de forêt qui ont eu des difficultés. Donc pas d'idéologie ni dans un sens ni dans un autre, du pragmatisme en la matière, parce qu'effectivement, on va être confrontés tous ensemble collectivement à des phénomènes très compliqués à gérer. Voilà. Après, n'étant pas moi-même spécialiste de ce genre de sujet, je n'ai pas envie de m'étendre, mais c'est vrai qu'il faut qu'on sorte de l'idéologie pour régler ces problématiques-là.
Voilà, il est difficile de ne pas en parler aujourd'hui. C'est quoi une politique climatique sérieuse, Fabienne Keller ?
Alors, elle doit faire face aux défis de long terme, c'est-à-dire qu'il faut limiter le réchauffement climatique. Le GIEC nous le dit depuis des décennies. C'est le sens des accords de Paris. Il faut le mettre en place concrètement, sur le long terme, pour arriver à ne plus émettre de gaz à effet de serre en 2050. C'est l'engagement que nous avons pris au niveau européen. C'est les changements dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les comportements de chacun. Et puis, il y a la gestion d'une réalité nouvelle, qui sont ces incidents liés au changement climatique. Il faut rappeler que c'est du réchauffement, mais aussi du changement. C'est-à-dire
du dérèglement.
C'est du dérèglement, tout à fait. Donc, des orages qui se transforment en
tempête,
en vent extrêmement violent, 200 km/h.
224 km/h dans le sud.
Alors que 100, c'est déjà énorme. Enfin, voilà. Il faut aussi que nos sociétés s'adaptent. Ça veut dire un certain nombre d'éléments sur l'aménagement et sur la préparation des crises. Donc, c'est toute la question de la sécurité civile, se préparer à ces épisodes qui deviendront plus fréquents, pas systématiques, mais plus fréquents. Et visiblement, on vit depuis 2 ans une séquence assez difficile d'événements assez rapprochés.
Voilà, et on apprend à l'instant que le président Emmanuel Macron présidera ce soir la cellule de crise interministérielle depuis le fort de Brégançon. Jonas Haddad, vous voulez rajouter quelque chose sur le dérèglement climatique ?
Non, mais simplement qu'on va aussi faire face, là, bientôt, à une crise énergétique et que les deux sont liés. Donc, vous voyez, si vous voulez, il ne faut pas non plus que les deux se cumulent et qu'on fasse aujourd'hui une forme de politique de la pénitence où les gens se privent par rapport à ça, alors que déjà, la pression va être très forte sur eux dans quelques mois sur la crise énergétique. On entend déjà, on est en France en 2022, qu'il va falloir couper le chauffage, etc. Donc, il va falloir concilier ces deux impératifs.
C'est vrai, Fabienne Keller, qu'on s'apprête à une crise énergétique. Ça nous rappelle le premier choc pétrolier dans les années 70. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il paraît qu'il y a une campagne de communication qui se met en marche du côté de la majorité.
Oui, quelque part, ce slogan est d'actualité. On peut, par exemple...
On n'a pas de gaz, mais on a des idées. Mais c'est quoi
nos idées ? En isolant mieux, pareil, un exemple concret. En isolant mieux les maisons, pour avoir une température confortable, vous consommez moins d'énergie. Donc, vous limitez votre dépendance à la facture énergétique, donc à l'augmentation du prix. et vous émettez moins de gaz à effet de serre. Il ne s'agit pas d'être restrictif, de faire se dégrader les conditions de vie des gens, mais de trouver un mode de vie, mais qui suppose de l'investissement, hein, où on est plus sobre dans notre consommation énergétique.
Et les Français ont envie, selon vous, de faire des efforts ?
Ça ne sera possible que si les Français participent. Il y a une sensibilité très forte chez nos jeunes. Mmh. On la voit bien hein, dans la foulée des déclarations de Greta Thunberg, mais il y a un vrai mouvement de jeunes, il y a une vraie volonté de participer. Donc, il y a une nécessité d'expliquer, à la fois scientifiquement, mais aussi plus concrètement, comment chacun, à son échelle, peut limiter son empreinte en termes de changement climatique.
Jonas Haddad, vous sentez, vous, en Normandie, que les Français sont prêts à faire des efforts sur leur consommation d'énergie ?
Ah, je suis ravi que vous me posiez la question parce qu'en Normandie, on a lancé un GIEC normand. Donc, c'est un GIEC régional qui va analyser dans chacune des grandes villes et notamment dans les littoraux, puisqu'on a pas mal de côtes, les conséquences concrètes de ce qu'il y aura, donc à Étretat, au Havre, etc. Les gens, oui, effectivement, sont prêts à faire des efforts, mais ils sont prêts à faire des efforts à une seule condition. C'est que ce soit acceptable et que ce soit efficace. Je vous prends un exemple tout simple. Le gouvernement récemment a accéléré la possibilité de développer des éoliennes. On voit bien aujourd'hui que les éoliennes ne sont pas une solution, une alternative concrète et durable aux enjeux énergétiques. Et donc les populations, là, n'acceptent pas ça. Donc il n'y a pas de problème, les gens sont prêts à faire les efforts, mais si les efforts sont efficaces, on voit bien que les éoliennes, c'est une énergie intermittente qui ne pourra pas remplacer le nucléaire. Et donc là, à ce moment-là, les populations nous disent « Ok, on est prêt pour les efforts, mais pas pour des choses qui ne servent à rien et qui enrichissent des promoteurs peut-être privés. » Voyez, donc oui, les gens sont prêts. Mais attention à des politiques efficaces, et encore une fois, en sortant de l'idéologie.
Fabienne Keller, je ne pense pas que le projet du gouvernement, ce soit de construire à la hâte des grands champs d'éoliennes d'ici la rentrée, quand même.
Ah, si.
Non, il s'agit de construire des éoliennes là où cela fait sens, parce que le vent est fort et qu'il y a des zones de consommation proches. Donc je ne crois pas qu'on puisse, M. Haddad, jeter la solution éolienne aux orties. Je crois qu'il n'y a pas de solution simple et que c'est bien une combinaison en fonction de la situation écologique locale. Et à côté de chez vous, il y a du vent. Il y a aussi des paysages et des visibilités à respecter pour des raisons touristiques. C'est pour ça qu'il y a des discussions en cours. Mais des champs d'éolien maritimes méritent d'être testés car ils sont assez efficaces énergétiquement, comme nos partenaires. Moi, je les connais bien. Je suis député européen dans les pays du Nord, les Danois notamment, les pratiquent assez largement.
Jonas Haddad.
Alors maritime, on n'est pas contre. Hein. D'ailleurs, vous voyez, même en Normandie, il y en a qui ont été installés. Simplement, il faut dire aussi à nos auditeurs une réalité. C'est qu'avant, il y avait un droit de veto par rapport aux éoliennes. Vous ne pouviez pas installer les éoliennes si le conseil municipal n'était pas d'accord. On a fait sauter ce droit de veto. Et là, récemment, une interview de Mme Pannier-Runacher dans le JDD qui dit que le grand projet, ce serait d'accélérer les procédures pour pouvoir implanter des éoliennes lorsqu'elles-ci ne sont pas voulues. Bon, on ne va pas faire un débat que sur les éoliennes, mais c'était une illustration de ce que je voulais vous dire, que les gens sont prêts à faire des efforts. Mmh. Mais attention à garder cette méthode que j'ai cru comprendre du gouvernement, d'une méthode qui n'est pas encore une imposition verticale et parisienne de chimère écolo. Voilà. L'écologie, c'est beaucoup de concret. Et c'est pour ça que vous me parliez de la région Normandie. C'est l'écologie du concret que nous, on veut. Voilà.
Voilà, la rentrée prochaine qui s'annonce donc sous le signe de la sobriété énergétique, sobriété économique aussi. Les Français n'ont pas le choix, l'inflation continue de grimper. Nous sommes fin août, ça y est, l'allocation de rentrée scolaire est en train de tomber sur les comptes en banque de près de 3 millions de foyers français. Il y a cette polémique qui vient de votre famille politique, Jonas Haddad, cette proposition de loi élaborée par des députés Les Républicains et visant à mieux contrôler l'ARS. Elle est signée, cette proposition de loi, par l'actuelle présidente par intérim d'LR, Annie Genevard. L'objectif, c'est d'encadrer l'utilisation de cette allocation, s'assurer qu'elle soit bien dépensée dans des stylos, des copies doubles. Pierre-Henri Dumont l'a signé également. Il nous a donné un éclairage, nous a expliqué le sens de cette proposition de loi.
On garde la même somme, on la divise en deux. La première partie est donnée aux communes pour qu'elles puissent acheter des trousseaux selon les besoins des enseignants. C'est-à-dire qu'il y aurait des cahiers, des stylos, bref, tout ce qui n'est pas personnalisable. Le reste, la moitié de la somme, est versée directement aux familles en bon d'achat chez tous les commerçants partenaires. et où là, on peut acheter tout ce qui est personnalisable, des cartables, des trousses, des vêtements, des affaires de sport. On peut s'inscrire dans les activités culturelles et sportives. Et donc, ça permet vraiment concrètement, un, de pouvoir faire des économies, deux, d'avoir plus de matériel pour les enfants, trois, de s'assurer que l'argent de la solidarité nationale va à la réussite des enfants et exclusivement à la réussite des enfants. C'est là, je pense, un bel objectif et ça permet de rassurer les Français sur leur consentement à l'impôt.
Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains. Alors, l'ARS, hein, c'est entre 350 euros et 410 euros. Ça fait bondir l'aile gauche, hein, de la majorité présidentielle, notamment Olivier Véran, hein, le ministre des Relations avec le Parlement. Il parle de stigmatisation des foyers modestes. Le ministre de l'Éducation nationale également, Pape Ndiaye, réagit. Hein, il est consterné cet après-midi. Fabienne Keller, vous aussi?
Oui, je partage. L'idée que ce qui est un classique, hein, des Républicains, c'est chaque année...
Pas que des Républicains. Hein, Jean-Michel Blanquer, l'ancien
ministre
de l'Éducation nationale, suggérait l'an dernier qu'une une allocation, une ARS, donc par bon d'achat, pour ne pas s'acheter, je cite, hein, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, pour ne pas s'acheter d'écran plat.
Alors, j'aime beaucoup, j'apprécie. J'ai apprécié le travail de Jean-Michel Blanquer dans les quartiers difficiles, en particulier de dédoublement des classes, qui est très fructueux, hein, en termes de résultats scolaires. Par contre, sur ce sujet, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que, comme le dit très justement Olivier Véran, on stigmatise les familles les plus modestes. Alors que moi j'ai été maire de Strasbourg, je suis encore très présente à Strasbourg. Je voudrais témoigner que très souvent, les familles modestes investissent beaucoup dans l'école, conscientes qu'elles sont, que c'est une chance pour les enfants, que l'école, voilà, le modèle français, c'est quand même... la même école pour tous, et que voilà, cet argent est utilisé comme cela leur semble judicieux. Je pense que les contrôler d'une certaine manière à ce moment-là, qui est un moment parental très important, hein, symboliquement, d'accompagner ses enfants, c'est pas juste. Donc je crois que l'ensemble de la majorité présidentielle ne souhaite pas prendre à son compte cette disposition. Alors, bien sûr, les Républicains utilisent leur capacité de négociation. Depuis qu'il n'y a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, bien sûr, ils ont une capacité à imposer un certain nombre de textes, mais la discussion aura lieu sur la pertinence d'un tel dispositif.
Jonas Haddad, vous défendez cette proposition de loi, je suppose?
Oh, oui, alors, complètement. Alors, vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de choses dans lesquelles c'est des débats picrocolins, je dirais, assez français. Vous savez, les mots stigmatisation, etc. Il n'y a pas du tout de stigmatisation. Je pense qu'il n'y a aucune famille qui vous dira que si jamais la moitié de l'allocation est versée par des bons par la mairie, elle se sent stigmatisée. À aucun moment, les députés républicains n'ont proposé de réduire l'allocation. C'est le même montant. Sauf qu'il y a une partie qui est attribuée par la mairie et une partie qui est attribuée librement par l'État. Et pourquoi on propose ça? Tout simplement parce que en faisant acheter ça par la mairie, c'est pas très compliqué à comprendre, on a des économies d'échelle. Donc quand on donne à quelqu'un, à une famille, 400 euros pour aller acheter des fournitures scolaires ou d'autres choses à leur libre choix, ils se retrouvent dans des grandes surfaces, alors que là, les mairies pourraient acheter en gros des choses, et donc que ça bénéficie au final au budget de l'État. Donc je vois pas à quel moment il y a une stigmatisation, puisqu'au final, c'est exactement la même somme qui revient dans la poche des personnes. Personne ne stigmatise qui que ce soit. C'est une question d'efficacité de l'argent public, de savoir est-ce que c'est bien utilisé ou pas. Et pourquoi on se fait ça? Parce qu'à côté de ça, on s'est rendu compte que sur le terrain, il y avait un certain nombre de personnes qui disaient « Oh, on distribue de l'argent à tout va », vous savez, cette phrase qu'on a tous entendue pendant nos campagnes, « Où va notre argent ? Nos services publics se dégradent alors que les impôts continuent à augmenter ?» On leur dit « Voilà, vous avez peut-être raison, il y a des endroits dans lesquels il faut regarder l'efficacité, on ne coupe pas, on réduit pas un euro, mais en revanche, on fait en sorte que l'argent soit bien utilisé. » Et je comprends pas à quel moment on peut parler de stigmatisation quand il y a même la même somme dans la poche des mêmes familles.
Très simplement, monsieur Haddad, en imposant cette contrainte, des bons d'achat et pas de l'argent dépensé à la responsabilité des parents, vous sous-entendez qu'il y aurait un mauvais usage de l'argent versé en euros. Et cette suspicion, eh bien, elle n'est pas acceptable. C'est pour cela que nous ne soutiendrons pas cette proposition.
Excusez-moi,
du groupe Les Républicains.
J'ai une question. Quand un employeur donne un ticket restaurant, est-ce qu'il suspecte quelqu'un de ne pas utiliser ça pour sa nourriture? Non, il dit voilà, l'objectif c'est de donner potentiellement un repas à une personne qui est mon salarié. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une allocation de rentrée scolaire. Et donc la personne, elle a un bon et elle va l'utiliser pour la rentrée scolaire. Il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a rien de psychologique.
Mais non, c'est la législation, parce que sinon c'est un salaire déguisé. Mais non, ça n'a rien à voir, le ticket restaurant.
Et pourquoi les députés n'ont pas proposé au moment des débats sur le pouvoir d'achat, Jonas Haddad?
Alors, la question, c'est dans ce cas-là, pourquoi? Parce que ça s'appuie aussi sur des données. C'est que, à l'occasion de la rentrée scolaire, il arrive que dans certains rayons, et c'est, vous voyez, c'est un ministre de l'Éducation de cette majorité-là qui l'avait dit, qui avait ces données chiffrées de Jean-Michel Blanquer, il y ait certains rayons qui augmentent. Il a parlé des crampes là, on pourrait parler d'autres rayons. Pour corriger cette petite marge, puisque effectivement, comme le gouvernement le dit très justement, il y a assez peu de fraude. On propose que 50% soit réservé aux mairies.
Monsieur Haddad, en préparation de cette émission, j'ai cherché les fameuses études. Elles n'existent pas. Il n'y a pas de fait éprouvé juste expliquant que les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire dépensent plus fortement sur à la fois les écrans plats de télé, mais aussi les autres appareils numériques au moment du mois de septembre et octobre. Donc, l'évidence n'est pas établie, et en la répétant, vous l'installez comme un fait qui, à nouveau, ternit l'image des personnes modestes. C'est pas bien ce que fait le groupe LR.
Personne ne ternit l'image de personne, mais c'est quand même assez curieux que si vous n'avez pas trouvé d'études, un, M. Blanquer ait dit ça, et deuxièmement, que ce soit à ce moment-là que la plupart des distributeurs, vous pouvez interroger les grandes chaînes de distribution, les grandes marques, mettent le paquet sur la publicité pour un certain nombre d'objets. C'est-à-dire qu'ils sont stupides, certainement. Ils se disent, je mets de la publicité comme ça sur les écrans plats ou sur un certain nombre d'autres choses. Ils sont certainement, ou philanthropes, ils décident de mettre des budgets publicité. Non, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, il y a une allocation complémentaire.
Mais comment pouvez-vous dire que c'est ciblé sur les personnes modestes?
Mais qui a dit que c'était ciblé sur les personnes modestes? Ça n'a aucun sens.
C'est peut-être parce que d'autres parties de la population achètent ces produits-là à ce moment-là, parce qu'on s'équipe à la rentrée, on s'installe. Il y a beaucoup de gens qui déménagent en été. Enfin, il y a d'autres causes que l'allocation de rentrée scolaire. Je pense qu'il faut, si on veut progresser en politique, partir de faits établis pour construire des compromis. Et moi, je me réjouis que le groupe LR soit plutôt dans un esprit constructif avec la majorité présidentielle, mais qu'on traite des sujets établis, factualisés, rationnels au service de nos concitoyens et notamment des plus modestes.
Jonas Haddad.
Non, mais c'est intéressant.
Vous allez insister sur ces bons d'achat, cette ARS par bon d'achat dès la reprise des débats à l'Assemblée le 3 octobre.
Oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'est très intéressant.
Vous serez obligé de faire des compromis avec LR.
Il faut dialoguer. Je crois que c'est plutôt une bonne chose. Nous le pratiquons au Parlement européen. Amené à construire des coalitions pour pouvoir faire voter des textes avec une majorité, c'est un exercice qui force à la discussion, au respect mutuel, à l'écoute, et qui, au niveau européen, fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au niveau national. Et à nouveau, je me réjouis que, sur un texte aussi important que le pouvoir d'achat, le gouvernement ait pris en compte des propositions des Républicains et que cela ait permis de voter le texte.
Et dans le dernier texte de pouvoir d'achat qui a été promulgué hier, il y a ce coup de rabot polémique également sur la question de la formation. Il nous reste une minute, je vais vous demander de répondre très vite. 800 millions d'euros d'aide en moins pour les CFA, les centres de formation d'apprentis. Ça va se faire en deux temps, ça correspond à peu près à 10% de baisse du budget. Ça sera septembre puis le printemps prochain. Ça tombe assez mal quand même, ce coup de rabot. C'est la période où les contrats doivent vite être conclus par les CFA. Ils ont jusqu'au 31 août. Comment vous expliquez ce coup de rabot?
L'apprentissage a connu une très belle embellie sur les dernières années. Hein. 300 000 apprentis. En 2018, il y en a plus de 700 000, plus du double.
Et l'objectif, c'est 800 000 à la fin
objectif,
de l'année, 1 million.
1 million fin de mandat.
À la fin du quinquennat.
La dynamique est positive. Moi, je rencontre beaucoup d'artisans, beaucoup de restaurateurs qui ont recruté à nouveau des apprentis. Il y a notamment une prime à l'embauche qui est assez importante pour les nouveaux apprentis. Il y a une image de l'apprentissage qui est en train de changer. Et puis, il y a les organismes de formation qui ont été bien financés, notamment pendant la crise, qui, pour certains, ont des petits effets d'aubaine. Voilà, il faut un peu optimiser les choses. Il faut qu'ils soient bien rémunérés pour la formation qu'ils assurent des apprentis, mais que là où il y a eu un petit effet d'aubaine, ben celui-ci soit corrigé. Le dialogue est ouvert avec Olivier Dussopt, le ministre en charge.
Donc, 80% des apprentis ont un niveau post-bac. Hein. Jonas Haddad sur l'apprentissage.
Ben, vous voyez, moi je ne dis pas que vous stigmatisez les centres d'apprentissage ou les apprentis. Je ne pousse pas des cris d'orfraie quand vous essayez de rationaliser des politiques publiques. Je trouve que c'est normal de regarder. En revanche, juste une chose, c'est qu'on voit bien que les gens ont de plus en plus de mal à recruter, quelles que soient les tendances confondues, et que l'alternance d'apprentissage, c'était une voie pour construire un chemin professionnel. Et là, pour le coup, même moi, en tant que libéral, je regrette qu'on casse un petit peu les pattes à un système qui avait fait ses preuves et sur lequel, d'ailleurs, on avait donné satisfecit au gouvernement.
Là, franchement, quand
merci
on parle
avec... Jonas Haddad, conseiller
la dynamique
est installée. De la région Normandie. Merci Fabienne Keller, eurodéputée Agir, soutien de la majorité présidentielle. C'était le débat d'Europe Soir. Dans quelques instants, un nouveau journal avec Wilfried de Villers. Restez avec nous sur Europe 1.